Aujourd'hui, le message est sur l'espérance. Ça tombe bien parce que la semaine passée, c'était le sujet que je préparais en vue de « À cause de l'espérance ». On va lire le texte. Mais c'est quasiment arrangé que le gars des vues parce qu'on est obligé d'annuler les rassemblements ici à la Bible parle Fabreville à cause qu'on est, au fond, le dimanche, plus que 250 personnes, adultes, enfants. Et en même temps, j'aimerais que, comme la parole de Dieu nous exhorte, de prier pour nos autorités et d'appuyer nos autorités civiles, surtout lorsqu'ils prennent des décisions difficiles, mais pour l'avantage et la protection des plus faibles dans notre société. Il faut faire attention de ne pas jouer aux arrogants au nom de la foi, mais au contraire de montrer finalement notre soumission aux autorités parce qu'ils ont une responsabilité devant Dieu, qu'ils le réalisent ou non en passant. C'est très secondaire qu'ils le réalisent ou non. Romains chapitre 12 et 13 nous parle des autorités civiles. En même temps, Pierre nous rappelle d'être soumis à toute forme d'autorité civile tant qu'ils ne prendront pas leur mandat pour nous faire faire des choses contre la volonté de Dieu. Là, ce n'est pas pareil. Mais quand c'est pour le bien d'une société, moi, je pense que les chrétiens devraient d'autant plus manifester l'appui au gouvernement et de prier pour eux. Fait que ce qu'on va faire avant de commencer le message. Fait que Seigneur, M. Legault et toute son équipe, et M. Trudeau aussi et toute son équipe pour le fédéral, ont des décisions à prendre. Seigneur, les choses qui se passent dans notre monde ne t'échappent jamais. Et tu nous rappelles qu'il n'y a pas un cheveu de notre tête qui tombe sans que tu les comptes. Tu es au courant. Quand tu nous donnes cette image, Seigneur Dieu, c'est pour montrer que même les choses les plus insignifiantes de nos vies où on ne fait pas attention, rien ne t'échappe. Alors, à plus forte raison, cette crise ne t'échappe pas. Ce n'est pas quelque chose qui est arrivé malgré toi. C'est quelque chose que tu permets. Seigneur, au travers de tout ça, néanmoins, tu veux qu'on manifeste ta compassion, le respect envers nos autorités. Alors, Seigneur Dieu, on veut prier pour eux pour qu'il puisse y avoir au milieu d'eux des hommes et des femmes de sagesse qui puissent être des bons conseillers pour nos gouvernements, puis des décisions qu'ils doivent prendre aussi en fonction des autres nations. On est rendu un gros village. Tout se promène à grandeur du globe facilement. Alors, on veut, comme pour ici à notre Assemblée, respecter, Seigneur Dieu, ce que le gouvernement nous demande, et en même temps, Seigneur Dieu, d'être conscient des plus faibles au milieu de nous. On ne veut pas jouer les matamores sur le dos des plus faibles. Fait que, Seigneur, s'il vous plaît, accorde-nous encore une fois ta sagesse, ton discernement, et comment l'Église peut contribuer au bien-être de la société. Et on continue à te demander une chose, Père. Un vrai réveil, entre autres pour nous dans le monde francophone, ici au Québec. On te demande, Seigneur, s'il vous plaît, un réveil, un retour vers toi, pas juste de quelques-uns, de milliers, pourquoi pas même de millions. S'il vous plaît, Seigneur Dieu, tu nous dis que Jésus-Christ est le seul chemin, l'unique chemin qui mène à toi, Père. Toi qui donnes la vie, toi qui nous délivre du juste jugement. Seigneur, s'il vous plaît, que Jésus-Christ soit glorifié. Et qu'il puisse y avoir un retour vers toi, pas vers des églises seulement ou des programmes, vers toi, Seigneur Jésus. C'est toi qui sauves. Ce n'est pas les églises qui sauvent, c'est toi. Nous, on fait juste annoncer ton œuvre, la bonne nouvelle, que toi, te porter les péchés, les fautes de tous ceux qui vont venir à toi, se confier en toi. Tu es venu sauver ce qui était perdu. Tu n'es pas venu donner une récompense au plus juste, qui est la vie éternelle. Tu es venu sauver ce qui était perdu. Alors, Seigneur, s'il vous plaît, manifeste-nous encore ta compassion. Ne nous traite pas selon ce qu'on mérite. Traite-nous selon ta miséricorde, ta grâce à cause de Jésus-Christ. Merci d'avance, Père, au nom de Jésus. Amen. OK, donc on tourne dans Colossiens chapitre 1 pour en retourner dans le texte. Donc, je vais le lire. Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, et le frère Timothée, aux saints et fidèles frères en Christ qui sont à Colosse, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père. Nous rendons grâce à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, et nous ne cessons de prier pour vous, ayant été informés de votre foi en Jésus-Christ et de votre charité pour tous les saints, à cause de l'espérance qui vous est réservée dans les cieux. Et que la parole de la vérité, la parole de l'Évangile, vous a précédemment fait connaître. Il est au milieu de vous. Une autre version dit, ça vous a atteint. Et dans le monde entier, il porte des fruits et il va grandissant, comme c'est aussi le cas parmi vous, depuis le jour où vous avez entendu et connu la grâce de Dieu conformément à la vérité, d'après les instructions que vous avez reçues d'Épaphras, notre bien-aimé compagnon de service, qui est pour vous un fidèle ministre de Christ et qui nous a appris de quelle charité l'Esprit vous anime. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier pour vous, Dieu, et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu, fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie persévérants et patients. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier, car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Et vous, qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos actions mauvaises, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître devant lui saints, irrépréhensibles et sans reproche, si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'Évangile que vous avez entendu et qui a été prêché à toute créature sous le ciel et dont moi, Paul, j'ai été fait ministre. C'était donc la lecture de la parole de Dieu, chapitre 1 de Colossiens, versets 1 à 23. Maintenant, si on revient brièvement, Paul se présente encore une fois comme apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu. Donc, on voit ici que ce n'est pas par sa volonté, ce n'est pas lui qui a désiré être apôtre. Il est apôtre parce que Dieu le Père l'a choisi et l'a mis à part pour ce ministère. C'est vrai que souvent après, dans l'Église, il nous est dit, par exemple, pour ceux qui aspirent, dans 1 Timothée chapitre 3, ceux qui aspirent à la charge d'anciens, donc qui deviennent les surveillants de l'Église, qui deviennent ceux qui nourrissent l'Église, qui la consolent, qui portent le poids de conduire l'Église dans l'apprendre d'abord à discerner la volonté de Dieu, pour après y marcher, là, il y a une aspiration qui peut être faite. Par contre, ici, dans ce ministère particulier d'apôtres de Jésus-Christ, parce que la Bible nous parle aussi dans le Nouveau Testament de d'autres apôtres, comme on a vu, les apôtres des Églises, ils n'ont pas la même autorité. Donc, ce n'est plus une autorité qui est transférable ici, l'autorité apostolique, celle de Paul ou encore des douze. Parce que si vous remarquez, Paul se présente comme apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu. On fait une petite virgule. Et le frère Timothée, il n'appelle pas Timothée apôtre, mais un frère. Et il s'adresse aux saints et aux frères en Christ qui sont à Colosse. Donc, cette lettre est adressée à des gens particuliers d'une petite ville qui, lorsque Paul écrit à cette petite église, d'une ville qui avait perdu aussi quand même pas mal un peu de son prestige de l'époque, parce que c'est une ville qui est un petit peu en déclin de manière économique. Et dans quelques années d'ici, quand Paul écrit, d'ici ici, par rapport à la lettre, là, je présume, vers 65-66, il va y avoir un gros tremblement de terre qui va détruire cette ville de Colosse. Donc, le Seigneur nous prépare toujours à marcher dans ses voies, afin qu'on soit toujours préparé dans cette vie, par la vie comme par la mort. N'oubliez pas que notre appel en Jésus-Christ, notre vie en Christ, la vie d'un croyant, elle commence ici, de ce côté-ci de la croix, où Christ est venu sauver ce qui était perdu, et c'est simplement en mettant notre foi en lui qu'on trouve la vie, le pardon, et ça nous prépare aussi à le départ, parce que c'est une chose certaine, tout le monde va mourir. Ou une dernière génération, selon les Écritures, ceux au retour de Christ qui ne sont pas morts seront transformés en un instant, en un clin d'œil, vous pouvez lire ça entre autres dans les lettres que Paul écrit aux Thessaloniciens. Même chose pour 1 Corinthiens chapitre 15. Donc, il leur écrit ici, suite à ce qui a été, il a reçu l'information. N'oubliez pas, Paul enseigne à Éphèse, enseignait à Éphèse, il avait fait un collège biblique, et pendant quelques années, tous ceux qui venaient étudier finalement sous l'apôtre Paul à Éphèse, dont ici ce monsieur ici, Épaphras, retournaient souvent dans leur village pour annoncer ce qu'ils découvraient de l'Évangile. Donc l'Évangile en partant, comment on peut naître de nouveau. Et deuxièmement, comment on marche avec Dieu? Comment cette nouvelle sorte de vie saisit? Donc ici, Épaphras avait consacré sa vie à vraiment vivre pour trois villes. Ici Colosse, Laodicée et Hiérapolis. Trois villes qui étaient proches les unes des autres. Et là, informé par Épaphras du résultat, eh bien, finalement, ils se réjouissent. Et regardez ici un des travails que souvent on a peut-être tendance à oublier. Marc-André nous inspire là-dessus tout le temps, ça c'est bon. Un travail qui semble être souvent oublié dans les églises, c'est la prière, l'intercession. Parce qu'on est dans un monde qui carbure énormément dans la richesse du pragmatisme. Donc, on a appris à découvrir des lois et des principes, et si on les met en action, eh bien, ça développe des choses. Par exemple, je ne sais pas moi, la technologie est le résultat de comprendre des lois sur lesquelles Dieu a créé son univers. Ce n'est pas bâti sur du mystère bizarre ou de la magie ou simplement du hasard. Il y a des lois. Et à tout phénomène, il y a ce qui précède le phénomène. Il y a une loi qui précède une manifestation. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment important pour nous autres, les chrétiens, que dès le début de la Bible, le Seigneur nous enseigne continuellement qu'il a créé toutes choses avec sagesse. Donc, c'est faux de penser que c'est gouverné par toutes sortes d'esprits bizarres, qu'on ne sait pas trop pourquoi un phénomène arrive. Plus souvent qu'autrement, un phénomène physique a une cause physique. Et ayant été affranchi de toutes sortes de formes de superstitions qui empêchaient souvent le développement de la science qui améliore la situation, parce qu'oubliez pas, on a été créé pour prendre soin d'un jardin. On a été créé pour analyser, comprendre et accumuler de la science et de la compréhension pour faire de mieux en mieux l'œuvre de Dieu, qui était au point de départ, développer un jardin. Un jardin, c'est quelque chose d'organisé différemment d'une forêt qui, finalement, n'est pas nécessairement organisée par un plan, dans le sens humain. Un jardin, ben, ça implique inévitablement une personne qui donne un but à l'organisation, tandis qu'une forêt marche peut-être sous un autre principe d'organisation, mais qui nous échappe. Nous, on était néanmoins créés pour organiser, volontairement, en connaissance des faits que Dieu était pour nous révéler. Ce qu'on met en pratique en passant aujourd'hui. C'est pour ça que certains pays ont une prospérité beaucoup plus grande que d'autres. C'est une question de science. Donc, il dit, nous rendons grâce à Dieu. Il est extrêmement ici reconnaissant à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, on voit ici encore une fois une manifestation de la Trinité, les trois subsistances ou les trois personnes de la Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Celui qui nous a été donné, qui s'est incarné, c'est la deuxième personne de la Trinité. Donc, venu, s'est incarné en chair, c'est le Seigneur Jésus-Christ, Jésus de Nazareth. Né d'une vierge qui s'appelle Marie. Donc, ici, il rend grâce au Père, car c'est son plan. Il ne faut pas oublier, c'est l'amour que le Père a eu pour nous. Dieu a tant aimé le monde. L'apôtre Jean nous écrit dans son Évangile, au chapitre 3, verset 16, un des versets peut-être les plus connus de nos Bibles. Dieu a tellement aimé le monde Et en passant, le monde n'aime pas Dieu. On aime peut-être ce qu'on peut prendre de Dieu, mais Dieu a montré et manifesté clairement que nous ne l'aimons pas. Par contre, lui nous a aimés. Il nous a aimés au point de nous donner le trésor des cieux, de nous donner son Fils unique. Donc, s'il nous donne le Fils, inévitablement, si tu donnes le Fils, tu le donnes en tant que Père. Donc, dans la Trinité, il joue un rôle significatif, le Père. C'est le Père, c'est Dieu, le Père, qui nous a tant aimés. Ça ne veut pas dire que Jésus et le Saint-Esprit ne nous aiment pas, mais c'est l'amour du Père qui met en évidence dans le don du Fils, dans son incarnation, dans sa soumission à la volonté de son Père. Je suis venu faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Et l'Église doit apprendre à faire la volonté de celui qui nous envoie. Et Jésus nous dit, « Comme j'ai été envoyé, je vous envoie », en parlant entre autres aux apôtres et de nous, l'Église. Et par amour pour son Père, il a fait parfaitement sa volonté. Et nous, normalement, par amour pour celui qui nous envoie, Jésus-Christ, on cherche à faire sa volonté, qui est aussi la volonté de son Père. Donc, c'est une volonté basée sur un amour libre. Dieu n'a pas répondu pour aimer. Dieu a initié l'amour. Le même Jean nous rappelle que ce Dieu qui nous a tant aimés, qui nous a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais puisse recevoir la vie éternelle. Jean, dans sa lettre, nous dit, dans sa première lettre, ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu le premier. En d'autres mots, ce n'est pas nous qui avons stimulé cette réponse de la part de Dieu de nous aimer. Et ça, il faut vraiment le voir selon les Écritures. C'est lui, le premier qui nous a aimés, et c'est nous qui donnons une réponse à cet amour. Quand on croit en lui, c'est que l'Évangile nous a atteints. Comme il mentionne un peu plus loin ici en disant, « Il est au milieu de vous », ou dans d'autres versions, ce serait plus, « Le message vous a atteint. » Ça s'est rendu jusqu'à vous. Donc, pour que cet amour nous soit annoncé, Dieu va coordonner finalement tout un mouvement dans son Église, par les uns et les autres, de nous donner, comme ici l'apôtre Paul, d'annoncer ce message. À moins d'entendre l'invitation de Dieu, on ne peut pas, par observation naturelle, découvrir l'Évangile. La seule chose qu'on peut découvrir par observation naturelle, c'est si tu brises une loi de la nature, il y a des conséquences négatives. En d'autres mots, tu découvres la loi. Et si moralement j'applique finalement la même chose que ce qu'on fait aux lois physiques, si je brise des lois morales, je vais avoir des conséquences négatives. Si par contre, je fais attention et je m'investis positivement dans les lois morales comme on peut le faire dans les choses physiques, il va y avoir des conséquences positives. Donc, il n'y a pas de neutralité là-dedans. Donc ici, finalement, il entend parler d'eux, il rend grâce à Dieu. Et résultant, nous ne cessons de prier pour vous. Maintenant, n'oubliez pas, Paul n'est plus à Éphèse en train d'enseigner dans son collège biblique. Paul écrit cette lettre dans une prison. Il est à Rome en prison. Et lui, dans un cachot, en prison, peut-être dans un appartement que Paul doit finalement faire ce qu'il veut, je ne sais pas trop dans quelles conditions il est en prison, mais il est en prison pour écrire cette lettre. Il écrit à des hommes et des femmes qui sont libres et il va les encourager. Paul est en train de nous montrer ici que peu importe ce qui va arriver dans notre vie, que vous soyez finalement dans des moyens de faire des choses ou que les moyens de faire les choses vous sont pour une saison enlevés dans votre vie, rien ne nous empêche de faire l'activité la plus incroyable, la plus fantastique. Prier. Écoute, c'est comme si, mais, je vais donner un petit témoignage rapide. Il y a des gens, quand je suis revenu chez nous, j'ai commencé à annoncer l'Évangile à droite, à gauche, à mes amis. Puis je me rappelle, il y en avait une couple qui m'ont dit, écoute, je ne veux plus jamais entendre parler de ça. Lâche-moi, laisse-moi tranquille. OK. Mais tu ne peux pas m'empêcher de prier pour toi. Hey! Quoi, tu vas ouvrir les portes de toilettes, tu vas aller me chercher dans les toilettes. Moi, chez nous, j'avais finalement à l'époque, quand je restais chez mes parents, j'avais un laboratoire que j'avais fait avec, entre autres, Yves Brousseau, là, qui est un de nos techniciens. On avait fait un laboratoire où on développait de la... Tu sais, à l'époque, là, on ne prenait pas des photos avec un téléphone. Ça s'appelait un appareil photo. Et là, en faisant des photos, ben, il fallait que tu développes tes négatifs dans le noir. Fait qu'on avait notre chambre noire et on imprimait finalement les photos qu'on faisait. Et quand je suis revenu, finalement, après avoir entendu l'Évangile en Europe, je suis revenu, on va dire, un an et demi plus tard, eh bien, c'était devenu mon refuge. Parce que, bon, ben, j'avais témoigné à ma famille qui m'avait fait savoir qu'ils n'étaient pas intéressés d'en entendre parler plus. Bon, j'ai respecté ça, mais au moins, j'ai pu leur dire une fois. Après ça, ils m'ont dit, on t'a entendu, on ne veut plus entendre parler. OK, pas de problème. Mais, dans ma chambre noire, qui était plus lumineuse à cause de la présence du Seigneur, non pas en lumière, parce que ça aurait fait brûler mes négatifs, mais l'espérance incroyable que j'avais par Jésus-Christ sème, dans le sens parle, pour semer la parole, il faut la parler. On devient la voix de la parole de Dieu. On ne remplace pas la parole de Dieu, mais le Seigneur va se servir de notre voix pour la proclamer. Regardez finalement comment c'est important de proclamer l'Évangile juste par rapport à l'apôtre Paul. C'est sûr qu'il y a certains ministères qui sont mandatés plus que d'autres à annoncer l'Évangile, c'est vrai. Mais quand on voit ici, quand Paul arrive finalement à Corinthe, il doit annoncer l'Évangile. Là, je vois de mémoire, là. Et le Seigneur lui rappelle que personne ne va mettre sa main sur toi. Donc, continue à parler. Peut-être parce que Paul est en train de... Tu sais, beaucoup de pression, là, c'est dans Acte 18. Il est dit ici que les Juifs faisaient alors de l'opposition, verset 6, là, Acte 18, 6. Et se livrant des injures, Paul secoua ses vêtements et leur dit, « Bon, que votre sang retombe sur votre tête. J'en suis libre. » Remarquez ici, il sait très bien qu'à toutes les fois qu'il annonce l'Évangile, il déclenche quasiment un émeute. Parce que les gens les plus capables sont souvent les plus enragés contre l'Évangile parce qu'ils vont dire, « Quoi, j'ai tout fait ça pour rien? » Maintenant, si c'était par amour et pour vrai que tu l'avais fait le bien, tu serais au contraire très reconnaissant que Dieu te manifeste une plus grande bonté. Car qui connaît ses égarements? Jusqu'à quel point on est pur dans nos motifs? Maintenant, on peut s'illusionner en pensant qu'on est des merveilles et que Dieu est endetté envers nous et obligé de nous sauver. Mais Paul le rappelle à tout le monde en disant, « Non, non, je vais vous montrer par la loi même de Dieu à quel point tout le monde est perdu. » C'est ce qu'il prouve, entre autres, dans son épître qui est écrit aux Romains, en les trois premiers chapitres. Il va faire la preuve que tout le monde, les plus corrompus à vue humaine, aux plus religieux à vue humaine, tous sont séparés de Dieu. Normalement, si tu es une bonne personne, tu es supposé de reconnaître à quel point on a besoin d'une meilleure personne pour nous sauver. Et le message de l'Évangile nous rassure. Par contre, si tu ne veux rien savoir, ben, tu vas attaquer souvent les messagers. Mais en passant, ça ne change rien. Tu as beau faire taire, tuer même les messagers, ils font juste annoncer ce qui est. Ça ne changera pas du tout le plan de Dieu. Fait que regardez, Paul, il se fait encore contester par son message. Il dit maintenant, verset 7, « Dès maintenant, j'irai vers les païens. » Parce que là, c'était les Juifs qui refusaient dans la synagogue. Et en sortant de là, il entra chez un nommé Justus, homme craignant Dieu, et dont la maison était contiguë à la synagogue. Cependant, Crispus, le chef de la synagogue, crut au Seigneur avec toute sa famille et plusieurs Corinthiens qui avaient entendu Paul, La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ, Romains 10, 17. Et plusieurs Corinthiens qui avaient entendu Paul crurent aussi et furent baptisés. Mais regardez bien ici comment c'est encourageant. Le Seigneur dit à Paul en vision pendant la nuit, « Ne crains point, mais parle, ne te tais point, car je suis avec toi et personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal. » « Parle, car j'ai un peuple nombreux dans cette ville. » « Parle. » Dieu a décidé de sauver par la prédication. Même Paul va dire par la folie de la prédication. Si c'est une folie pour l'homme naturel, la prédication, qu'il y a 2000 ans pour nous maintenant, un homme rejeté par son peuple, les Juifs, crucifié, ressuscité le troisième jour, est au fond la porte vers l'éternité, vers le paradis, vers le pardon de tous nos péchés, de refuser finalement ce message, eh bien, il ne nous reste plus que logiquement dire, au fond, la vie, ça va mal finir, ça va finir dans la mort. Et s'il y a quelque chose après, là, on a un problème. Donc, c'est pour ça qu'il y a un nouvel évangile qui se répand avec beaucoup d'arrogance. On parle contre nous autres, les chrétiens, qu'on a été, les chrétiens avec leurs valeurs judéo-chrétiennes. Ouais, bien, écoutez bien. Toute croyance a son système d'éthique. Toute croyance va produire son jugement du bien et du mal. Si vous n'avez pas le bon, si vous n'avez pas la bonne croyance, vous n'aurez pas le bon jugement sur le bien et le mal. Le nouvel évangile aujourd'hui, c'est il n'y a pas de Dieu. Donc, les gens disent, on est délivré du jugement, on déclare que Dieu n'existe pas. Donc, c'est une nouvelle religion qui est de croire que Dieu n'existe pas. Ben, moi, je crois que Dieu existe. Je crois que Jésus-Christ est vraiment ressuscité. Et quand le message de l'Évangile nous atteint, comme il a atteint les Colossiens, eh bien, il vous reste juste une chose à faire. Y croire en le recevant et en réorganisant votre vie, ce qui est la repentance, le changement de vie. Tu réorganises ta vie en fonction de ce message pour voir et connaître les réactions de Dieu. Si Dieu existe et qu'il est vraiment vivant, si Jésus-Christ est réellement venu et accompli les paroles de tout l'Ancien Testament des prophètes, eh bien, si depuis 2000 ans, il y a des témoins depuis 2000 ans, c'est vrai qu'il y a plein de pourris en chemin, mais toutes les sphères de la société ont des pourris. Fait que c'est pas à cause des pourris que je ne vais pas croire quelque chose, mais essayer de trouver les vrais, que ce soit en médecine, que ce soit en politique, que ce soit en science, que ce soit en religion, que ce soit en philosophie, que ce soit en n'importe quoi, mais essayer de trouver les vrais. Je ne veux pas me trouver des excuses par ceux qui me fournissent leur corruption. Alors, finalement, des hommes ici, comme l'apôtre Paul, vont ruiner leur vie à être fidèle au message. Si quelqu'un, si Paul aurait voulu bâtir une nouvelle religion puis une nouvelle secte à son avantage, bien, il aurait changé son message. Le gars se faisait lapider, il se faisait jeter dehors des synagogues, il se faisait battre régulièrement, au point que le Seigneur est obligé de venir l'encourager, comme qu'on vient de lire. À Corinthe, là, ne crains point. Ça veut dire que même un gars comme l'apôtre Paul avait pogné comme son niveau, j'en peux plus, là. Je vais-tu déclencher encore d'un autre témoin? Ils vont me battre encore, ils vont me jeter en prison encore. Le gars, il est fidèle au message parce qu'il sait, il l'a vécu, il l'a vu, Jésus-Christ est vraiment ressuscité. Ceux qui ont finalement une capacité, une force renouvelée, ce n'est pas parce qu'ils sont plus capables que les autres ou sous de l'autosuggestion, c'est qu'ils ont réorganisé leur vie pour le connaître, le Seigneur. Si je ne connais pas Jésus-Christ dans ma vraie vie, dans mes épreuves de tous les jours, en fonction de ses promesses à lui. Alors, je peux partir sur un enthousiasme quand on me donne la bonne nouvelle, mais comme il est dit, il y a plusieurs types de cœurs, plusieurs types de sols où la semence va tomber. Maintenant que j'ai cru ce message, je suis maintenant devenu responsable, comme on l'a vu dimanche passé, à l'autre message, je suis responsable d'entretenir mon cœur. La Bible dit à ceux maintenant qui sont venus et qui ont cru au message, initialement, en Jésus-Christ, mort pour nos péchés, mais ressuscité pour notre justification, la Bible nous dit, « Mon fils, donne-moi ton cœur. Donne-moi le centre de tes intérêts. Donne-moi le lieu où tu réfléchis, où tu prends tes décisions. Car de lui, de ce cœur, viennent toutes les issues de la vie. Tout ce que tu vas faire dépend comment tu conçois les choses en ce moment dans ton cœur. » Alors, comment on donne notre cœur au Seigneur? À chaque fois qu'on lit la parole, qu'on entend cette parole, les promesses que Dieu nous fait, comment je réajuste ma vie en fonction de ça? Et puis, comme on l'a lu la semaine passée encore, un peu plus loin dans son épître, au chapitre 3, vous vous rappelez, il dit ici, « Faites donc, 3:5, faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, la cupidité qui est une idolâtrie, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. » Regardez bien ici. « Parmi lesquels vous marchiez autrefois, lorsque vous viviez dans ces péchés. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. » Donc, Paul est en train de montrer comment je peux cultiver mon cœur, le terrain dans lequel, quand j'entends ou quand je lis la parole de Dieu, pour qu'il y ait son effet maximal, garde ton terrain propre. Donc, il nous dit, ça doit être pratique. Et pourquoi? Parce que ma foi repose sur le passé. Je crois à l'œuvre de Jésus-Christ et ma foi va augmenter de plus en plus, car plus je vais faire l'expérience de la fidélité de Dieu sur la base de ses promesses à lui, eh bien, je vais avoir de plus en plus l'expérience de Jésus-Christ ressuscité, qui est vraiment avec nous au milieu de nous. Ça va m'apprendre aussi à avoir un futur, une espérance sûre. Mon espérance se bâtit présentement sur mon obéissance à la parole de Dieu et qui est comment j'attends le Seigneur, comment je m'attends à lui. On va faire plein d'erreurs. On va manquer notre coup souvent. Ce n'est pas grave si tu confesses tes fautes, si c'est pas dans le sens, si tu n'en vas pas dans une rébellion volontaire. Mais même là, si tu te réveilles puis tu changes de direction puis tu reviens à Dieu avec une authentique repentance, tu regrettes vraiment, tu veux apprendre à marcher dans la vérité, le Seigneur est juste et fidèle pour nous pardonner et nous purifier de tout péché, de toute iniquité. Maintenant, si j'apprends comment croire en Dieu, comment croire en ce qu'il dit, tu sais, dans le sens de vraiment prendre le temps de me nourrir des Écritures, de savoir pas qu'est-ce que moi je veux, c'est pas un royaume que je m'imagine. Il faut que je sois continuellement ramené aux Écritures pour dire, est-ce que j'ai bien compris, Seigneur? Est-ce que j'ai compris comment on marche avec toi? Parce que mon assurance va venir dans l'expérience que je vais avoir de toi. C'est pour ça que notre foi, c'est au fond le passé. Quelqu'un qui a une foi plus mature, c'est quelqu'un qui a vécu plus longtemps que le Seigneur. Il a perdu moins de temps à aller dans ses anciennes manières de faire. Il s'est attendu au Seigneur. Deuxièmement, ton espérance grandit aussi de plus en plus parce que la vie éternelle, ce n'est pas juste pour ici et maintenant. Ici et maintenant, tu vis dans un monde que tout passe. Les bons moments, comme les mauvais moments, vont passer. Par contre, ceux qui auront fait la volonté de Dieu ne passeront jamais. Jésus va même dire une phrase assez spectaculaire. Ceux qui croient en moi, donc croient en lui, dans son œuvre à lui, ce qu'il va faire à la croix du calvaire pour tous ceux qui vont mettre leur confiance en lui, il est venu porter nos péchés, il est venu payer pour nos péchés, il est venu nous racheter du marché de l'esclavage, de nos péchés, eh bien, même s'ils meurent, ils ne mourront pas. En d'autres mots, on va mourir physiquement. Tout ce qui est généré d'Adam, tout ce qui est fait dans le sens dans cette vie, tout ça doit passer. Mais ceux qui auront fait la volonté de Dieu, d'abord en mettant leur confiance dans l'œuvre de Jésus-Christ seul pour être sauvés, pas dans leurs œuvres, dans l'œuvre de Christ seul à la croix, vont être sauvés, en d'autres mots, ne sont plus séparés de Dieu, ne marchent plus vers les ténèbres éternelles. Mais au contraire, ils ont été transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, transportés dans le royaume de lumière. Et donc, mon espérance, mon futur détermine énormément mes décisions au présent. Et les décisions au présent, ils sont motivés par la charité, l'amour. Comment je peux vivre pour l'avantage de mon frère? Comment je peux vivre pour le bien de mon prochain? Parce qu'encore une fois, mon passé bâtit une fondation à mon raisonnement qui me ramène sans arrêt à croire de plus en plus dans l'espérance que j'ai qui ne peut me tromper. Le Seigneur ne ment pas. On en fait l'expérience. Et donc, ça donne un présent continuellement renouvelé par son amour. C'est pour ça qu'il dit ici, regardez verset 4, chapitre 1, Colossiens, « Ayant été informé de votre foi en Jésus-Christ, son œuvre, ce qui a été fait, et de votre charité, on pourrait dire, présentement pour tous les saints, cette charité qui est produite par le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu qui est en eux maintenant et qui les anime. Présentement, on est entre un passé qui est de plus en plus rassurant à cause de ce qu'on connaît de Dieu, de Jésus-Christ, qui nous projette vers une espérance qui nous est réservée dans les cieux. Et cette espérance, on la connaît que par la parole de Dieu. Ce n'est pas quelque chose qu'on s'imagine personnellement. C'est quelque chose qui nous vient de la parole de la vérité, de la parole de l'Évangile qui vous a été précédemment fait connaître. Regardez ce qu'on lit dans Éphésiens 1, 18, parce que il y a quelque chose de similaire ici. 1.18 dit qu'il illumine, il parle entre autres à des gens qui sont croyants, et voici comment on doit prier. Même on va juste aller un petit peu plus haut, verset 16. « Je ne cesse de rendre grâce. » Encore une fois, Paul est extrêmement reconnaissant quand il entend parler que des gens ont cru en Christ. Seigneur, merci. Merci d'avoir ouvert les yeux à ces gens. Merci que ta parole a atteint ces gens. Merci d'avoir envoyé des hommes et des femmes, même si ça peut être ruiné leur vie de faire atteindre le message à ces gens, mais merci d'avoir sauvé des gens qui autrement auraient péri. je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières. Regardez le gros de l'activité de l'apôtre Paul, l'intercession, la prière. C'est quelque chose qui se perd dans beaucoup d'églises, je trouve. Afin, résultat de ça, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, qu'il illumine les yeux de votre cœur, le lieu de réflexion, le lieu des ambitions, le lieu, le cœur, les yeux de votre cœur s'illuminent pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. En d'autres mots, c'est pas, il vient de montrer ici, écoutez, gars, c'est pas de l'autosuggestion, là. Cette efficacité, elle est par la vertu de sa force à lui. Vous parlez à quelqu'un de vivant quand vous priez Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, Jésus-Christ ressuscité. On ne parle pas d'une philosophie, on ne parle pas d'un système, on ne parle pas d'une religion, on ne parle pas de l'autosuggestion qu'on se fait soi-même. On parle à quelqu'un qui nous écoute et jamais il ne dort ni ne sommeille celui qui veille sur Israël. Alors finalement, le Seigneur nous dit, regarde, tu me parles à moi. Notre secours vient de quelqu'un de ressuscité. Dieu l'a manifesté publiquement. Le fondement du christianisme, c'est Jésus-Christ mort à la croix, pour nos péchés, car le salaire du péché, c'est la mort, c'est la mort. Mais la bonne nouvelle, il est ressuscité, car il a payé la dette de tous ceux qui vont venir à lui. Tous ceux qui vont venir à Dieu par Jésus-Christ vont recevoir le pardon de toutes leurs transgressions et de leurs fautes. On est lavé par son sang. Maintenant, la bonne nouvelle, je ne peux que l'avoir entendue. Il faut que Dieu envoie des messagers nous annoncer sa bonne nouvelle. Ce n'est pas le messager qui sauve. C'est le messager nous pointe vers celui qui sauve, Jésus-Christ, le juste, celui qu'on a rejeté, qu'on a crucifié, mais qui est ressuscité le troisième jour, conformément aux Écritures. Donc, l'espérance, mon futur, qui va plus loin que cette vie, surtout dans un temps comme aujourd'hui, regardez, on a une pandémie. Nos gouvernements viennent de nous mettre en garde pour une pandémie. Ils nous demandent notre coopération pour essayer de limiter les contacts afin que les plus faibles ne soient pas en train de périr à cause de l'insouciance souvent des plus forts. Parce que trop souvent, on dit « Ah non, moi, je n'ai pas de problème. » OK, pense pas rien qu'à toi, bozo. Pense aussi à ceux qui sont plus faibles. Et puis, prie pour ton gouvernement, surtout quand il veut prendre des bonnes décisions en vue d'aider les plus faibles. L'arrogance ne plaît jamais au Seigneur. Il peut y avoir des fois beaucoup d'arrogance chez ceux qui croient avoir la fameuse puissance de Dieu en eux. La puissance de Dieu qui nous anime, elle est supposée de produire en nous de l'humilité, de la douceur, de penser aux autres, pas à soi. L'amour ici, la charité pour tous les saints, c'est comment je peux être à l'avantage de mon frère, pas comment je vais être à son désavantage, comment je peux être à son avantage, comment, si tu as plus de force physique, comment cette force physique peut être à l'avantage de ton frère et de ta sœur. Si tu as plus de moyens financiers par la grâce de Dieu, comment, après avoir comblé tes besoins, avec le restant, comment tu peux être à l'avantage de ton frère, de ta sœur et même du prochain? Même chose avec ceux qui ont de l'éducation. Comment tu peux mettre à profit l'éclairage que tu peux amener sur les situations? Comment on peut mieux servir? Pas comment on peut mieux dominer, comment on peut mieux terroriser, comment on peut mieux servir à l'image de notre propre Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ a appris au dernier souper qu'il y a eu avec les 12. Il s'est déshabillé, il s'est mis en tenue finalement pour laver les pieds de ses disciples, pour leur dire, je suis le Seigneur. Vous avez raison, vous m'appelez Seigneur. Vous avez raison, je le suis. S'il y en a un qui aurait pu exiger d'être servi, c'est lui. Il dit non. Parce que quand Pierre ne voulait pas que Jésus lui lave les pieds, il dit, si je ne te lave pas les pieds, tu n'auras aucune part avec moi. Bon, mais Pierre, c'est tout ou rien. OK, donne-moi un bain de bord. Non, non, tu as juste besoin d'être purifié. Tu es déjà pur. Mais il est en train de montrer en disant, voici l'attitude dans laquelle vous allez apprendre à marcher quand je vais vous déléguer de mon autorité, quand je vais vous déléguer de ma puissance. Ça ne sera pas pour terroriser les gens. C'est pour faire comme je le fais pour vous maintenant. Lavez-vous les pieds les uns les autres. Supportez-vous les uns les autres. Priez les uns pour les autres. Devenez à l'avantage les uns pour les autres, afin que vous puissiez vous soutenir, soyez à mon image. Christ est le roi serviteur. Alors, on n'est pas plus grand que le maître. On ne devrait pas avoir jamais une attitude d'arrogance. L'attitude d'arrogance de prétendre que finalement on est toujours au-dessus des autres est à l'encontre totalement de l'action du Saint-Esprit dans la vie de quelqu'un. C'est contraire aux Écritures. C'est ceux qui sont humbles qui aiment les autres. Les orgueilleux, ils s'aiment. Ils s'aiment tellement, c'est au détriment des autres. C'est contraire à l'Évangile total. Donc, est-ce que tu t'aimes au point que tu oublies qu'il y a du monde autour de toi, ou est-ce que tu aimes les autres au détriment peut-être de toi des fois? Tant qu'à te tromper, t'es mieux de te tromper de ce bord-là que de l'autre bord. Bon, mesdames et messieurs, c'est là-dessus que je vous laisse. Et puis, en ce moment, donc, on est dans nos maisons. Il y a un écran qui vous empêche de recevoir mes postillons. Fait que tout le monde est à l'abri. Mais, plus que jamais, prions que le Seigneur se serve de toutes choses. Parce que pour son peuple, de toute façon, il nous dit dans sa parole, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein. Donc, ça veut dire que pour nous, croyants, même les épreuves, et un jour, même notre mort est à notre avantage. Je sais que ça a l'air plate à dire, mais même mourir, ça va être à notre avantage, car Paul lui-même nous le dit. C'est juste parce qu'on l'entend des Écritures. Ce n'est pas une expérience qu'on peut rapporter, ça. Un mort ne peut pas rapporter son expérience. Par contre, Paul a eu le privilège, on pourrait quasiment dire, de mourir, d'aller dans la présence de Dieu, puis de revenir après. Il dit, écoutez les gars, la mort m'est un gain. Lui savait de quoi il parlait. Il n'était pas suicidaire. Il savait qu'est-ce qui nous attend. Ici, c'est un pèlerinage. Ici, nous marchons et nous marchons avec le Seigneur qui règne au milieu de ses ennemis. Psaume 110. C'est un des psaumes les plus cités à l'époque de l'Église primitive, le psaume 110. Marchons avec le Seigneur. Marchons à l'avantage du prochain. Cherchons la volonté du Seigneur afin qu'on puisse manifester que notre vie est bâtie sur une espérance qui ne trompe pas. Si vous voulez encore une fois aller plus loin dans le sujet, lisez Romains chapitre 5. Vous allez voir que c'est non seulement croire en lui, mais les diverses afflictions du temps présent, les diverses épreuves du temps présent sont le lieu où on va connaître l'amour de Dieu pour nous. Comment il nous en délivre? Et Jacques aussi nous rappelle que l'épreuve purifie notre foi. Pierre nous rappelle aussi que l'épreuve purifie notre foi comme l'or est purifié par le feu. Parce que la foi véritable ne périt pas. Ce qui périt dans mes épreuves, c'est mes illusions que je me suis faites, que j'ai appelées ma foi. Les Écritures sont sûres. Et dans tout ça, notre but, c'est la vie éternelle. Et la vie éternelle, Jean 17, 3, c'est de le connaître. Connaître le Dieu véritable, pas des mythes, le Dieu véritable et Jésus-Christ qui nous a envoyés. Que le Seigneur puisse fortifier notre foi véritable. Continuons à prier. Réjouissons-nous que tous les événements concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Prions pour un authentique réveil, pas juste un enthousiasme religieux, pas juste deux, trois églises qui se remplissent, qu'il y ait vraiment un réveil, un retour à Jésus-Christ, le sauveur de l'humanité, le seul et unique chemin qui mène au Père. Amen. On remet ça au Seigneur. Fait que Seigneur, merci énormément pour ta bonté à notre égard. Seigneur, merci que, et dans cette vie et dans celle qui vient, tu es notre seul espoir, véritable. Déjà dans cette vie, tu t'occupes de nous. Ceux qui ont appris à marcher avec toi te découvrent dans ta fidélité à ta parole, te découvrent, Seigneur Dieu, comme étant celui qui nous dit qu'on peut purifier nos âmes par la foi en croyant ton message, que Jésus-Christ a vraiment porté nos péchés. Il est vraiment venu sauver, pas les meilleurs, il est venu sauver ce qui était perdu. Le but de ta loi, le but de tes commandements, c'était pour mettre en lumière à quel point on est loin de toi de cœur. On peut peut-être essayer de les imiter, pas essayer de te charmer, mais pour vrai. Seigneur, à moins que tu nous manifestes toi, ta bonté, ton amour, Seigneur, on est perdu. Sans toi, on est perdu. Il n'y a aucun espoir en dehors de toi, Seigneur Jésus-Christ, de ton œuvre. On a beau vouloir, Seigneur Dieu, se réfugier dans les œuvres qu'on fait en tant qu'être humain, puis il y a eu des avantages, plein d'avantages aux œuvres qu'on a pu faire, mais ça n'a jamais pu régler le vrai problème. Le vrai problème, Seigneur, c'est la mort. Tu es venu accomplir la volonté de ton Père et le commandement que tu as reçu de ton Père, c'est la vie, de donner la vie à ceux qui viendraient à toi pour trouver le pardon. Seigneur, bénis tout le monde. Bénis ta parole. S'il vous plaît, bénis ta parole à nos cœurs et apprends-nous jour après jour à marcher avec toi. Apprends-nous à prier les uns pour les autres. Apprends-nous à être utiles les uns aux autres, car c'est ton cœur. C'est la volonté de Dieu. Alors merci Père, dans le précieux nom de Jésus. Amen. Bonne semaine tout le monde.